Je laisse la place maintenant à notre prédicateur de ce jour et que Dieu œuvre en nous et par lui. Au nom de Jésus.
Avez-vous déjà connu ces moments d'attente et d'appréhension lorsque vous essayez de prendre des nouvelles de quelqu'un et vous n'arrivez pas à joindre au téléphone et vous commencez à paniquer? Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer? Et puis enfin, la personne décroche et vous dit que tout va bien. Nous avons sans doute tous connu des moments pareils. Et ça, c'est dans notre monde actuel, avec la communication instantanée. Imaginez ce que ça a dû être avant le smartphone, avant le GSM, même avant le téléphone. L'attente de nouvelles importantes a dû être longue et terrible. C'est un peu la situation qu'a vécu l'apôtre Paul dans le passage que nous avons lu au chapitre 7 de 2 Corinthiens. Merci de trouver une Bible et de garder le passage ouvert devant les yeux. Paul a envoyé Tite à Corinthe avec une lettre et il attend son retour pour avoir des nouvelles. Cela l'a fort stressé. Nous le voyons au verset 5. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'a pas eu le moindre repos. Il attendait impatiemment le retour de Tite. Et ce chapitre raconte les nouvelles que Paul a eues lors du retour tant attendu de Tite. Les nouvelles sont bonnes. Paul est soulagé. Nous arrivons à la dernière prédication dans la série sur 2 Corinthiens. Et Paul boucle la boucle dans ce passage. Au chapitre 2, il a commencé à raconter dans quel état il était en Macédoine en attendant les nouvelles de Tite. Et puis il parle pendant 5 chapitres pour décrire ce qu'est le ministère authentique de l'Évangile. Pour montrer qu'il est un ministre authentique de la Nouvelle Alliance. Avant de revenir au chapitre 7 sur le retour de Tite et la réaction des Corinthiens face à sa lettre. Et maintenant au chapitre 7, il termine son explication de ce qu'est le ministère authentique. Ce passage est rempli d'encouragement et de joie. Vous voyez les répétitions du terme « consolation » et le terme « joie ». Paul est profondément soulagé. Il a reçu des nouvelles encourageantes de la part de Tite concernant les Corinthiens. Et il dit « Ouf, merci Seigneur. Quelle consolation !» Nous allons suivre ce passage en 3 temps. Et d'abord, au verset 2 à 7, nous allons voir que le christianisme authentique se rattache à l'enseignement de l'apôtre Paul. Le christianisme authentique se rattache à l'enseignement de l'apôtre Paul. Il est impossible de lire 2 Corinthiens sans être frappé par le lien entre le christianisme authentique et l'apôtre Paul. C'est pour cela, au verset 2, qu'il dit aux Corinthiens, « Faites-nous place dans vos cœurs. » Il a dit quelque chose de semblable au chapitre 6, au verset 13. Il veut que les Corinthiens fassent preuve d'amour à son égard. Car, après tout, Paul n'avait rien fait pour mériter leur mépris. Il continue au verset 2. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons exploité personne. Peut-être qu'il se compare aux faux enseignants qui profitaient des Corinthiens pour un gain honteux. Ou peut-être il répond aux accusations portées contre lui. Il dit « Je ne vous ai fait aucun mal. Nous n'avons fait de tort à personne. » C'est la marque d'un ministre authentique de l'Évangile. Je parlais à la maman d'un ami ici à Louvain-la-Neuve dernièrement. Elle habite au Chili et elle était surprise d'apprendre que j'étais pasteur. Être pasteur pour elle voulait dire s'enrichir au maximum aux dépens des fidèles. C'est ce qu'elle a vu au Chili. C'est honteux. Mais ce n'est pas ainsi que Paul s'est comporté. Et il rassure les Corinthiens en verset 3 qu'il ne les visait pas en protestant de son innocence. Ce n'est pas pour vous condamner que je dis cela. Et puis il leur parle de nouveau de son amour pour eux. Car je l'ai déjà dit, vous êtes dans nos cœurs, à la mort et à la vie. Paul dit, vous avez une place toute particulière dans nos cœurs. On est prêt à mourir pour et avec vous. Et nous allons vivre éternellement avec vous. Paul n'est pas comme ces pasteurs professionnels qui se pointent à 9h du matin, qui font leurs 8 heures de travail et qui rentrent chez eux et oublient les chrétiens qu'ils servent. Non, il les porte dans son cœur. Mais le problème, c'est que les Corinthiens, eux, ont du mal à aimer Paul. Peut-être sous l'influence des faux enseignants qui critiquaient le ministère de Paul. Ils prenaient de la distance à son égard. C'est pour cela que Paul les exhorte, faites-nous la place dans vos cœurs. Et au verset 4, il introduit les thèmes majeurs du reste du passage. Il dit, je vous ai parlé franchement. Le terme assurance ici pourrait vouloir dire la confiance qu'a Paul dans les Corinthiens. Ou cela pourrait faire référence à sa hardiesse dans ses paroles à leur égard. Il a parlé avec hardiesse dans la lettre, n'est-ce pas? Juste la semaine passée, il les a exhortés à se séparer du mal, à prendre leur distance des idoles et à développer jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Et au chapitre 10 à 13, il va y aller franco pour remettre les faux apôtres à leur place. Mais même s'il leur parle franchement, il est quand même fier d'eux. Verset 4. J'ai bien lieu de me glorifier de vous. Ici, Paul est comme un papa fier de son enfant. Je me souviens lorsque je suis devenu un papa pour la première fois. Je suis allé faire des courses et j'avais envie de dire à tout le monde au supermarché, savez-vous que je suis devenu papa? Je voulais le dire à tout le monde, j'étais tellement fier. Peut-être avez-vous remarqué comment les parents parlent de leurs enfants comme s'ils étaient des génies. Ils vous montrent un dessin fait par le gamin, vous n'arrivez guère à distinguer ce que c'est. Et le parent vous le montre fièrement et s'attend à ce que vous soyez épaté. Paul est fier des Corinthiens. Certes, il y a des choses qui ne vont pas chez eux, mais il se glorifie d'eux. Il en parle au bien, en bien aux autres. Et nous voyons ici l'amour de Paul pour les chrétiens. Et ensuite, nous voyons sa joie. Verset 4. Je suis rempli de consolation, je déborde de joie au milieu de toute notre affliction. À cause des Corinthiens, Paul déborde de joie. Les croyants font sa joie. Et qu'est-ce qui fait sa joie en particulier? Mais il s'agit du retour de Tite de chez les Corinthiens et les nouvelles encourageantes qu'il a apporté. Lisons en partie le verset 5. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'a pas eu le moindre repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu, qui console les humbles, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation qu'il avait reçue de vous. Il nous a raconté votre ardent désir, vos pleurs, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Et ici, Paul reprend sa narration du chapitre 2. Écoutez, chapitre 2, versets 12 et 13. Lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile du Christ, bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte, mon esprit n'a pas eu de repos, parce que je n'ai pas trouvé Tite, mon frère, alors que j'ai pris congé d'eux, et je suis parti pour la Macédoine. Paul avait envoyé Tite à Corinthe, avec une lettre appelant les Corinthiens à la repentance. Un homme dans l'assemblée s'est fortement opposé contre l'apôtre Paul, contre son autorité, contre son enseignement. Et l'assemblée n'a pas réagi pour rectifier la situation. On pourrait se dire, mais Paul ne fait-il pas preuve d'égoïsme? Ne recherche-t-il pas que les gens l'apprécient? Ne serait-il pas un peu trop susceptible? N'aurait-il pas une trop haute opinion de lui-même? Non. En tant qu'apôtre de Jésus-Christ chargé d'annoncer l'évangile aux non-juifs, Paul voyait un danger clair. Si les Corinthiens s'éloignaient de lui, ils s'éloigneraient également de l'évangile authentique, du seul évangile qu'il y a, le message de l'opération de sauvetage orchestrée par Dieu pour sauver les pécheurs comme nous, par la mort de son fils. Paul envoie donc Tite avec la lettre qui interpelle les Corinthiens à agir pour rectifier la situation. Et Paul attend Tite à Troas. Mais le temps passe et Tite ne vient pas à Troas. Paul se dirige vers la Macédoine, espérant y trouver Tite. Et il dit qu'il était affligé de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Que s'est-il passé à Tite? Comment les Corinthiens allaient-ils réagir à sa lettre? L'attente semblait interminable pour Paul. Jusqu'au moment où Tite en arrive enfin. Quel soulagement! Tite est sain et sauf. Et pas que cela, il rapporte aussi de bonnes nouvelles de sa visite à Corinthe. Verset 7, il nous a raconté votre ardent désir, vos pleurs, votre zèle pour moi. Il y a eu un vrai changement d'attitude chez les Corinthiens. Quelle bonne nouvelle! Au lieu de se montrer méfiant à propos de Paul, il lui démontre une ardente affection et du zèle. Cela fait la joie de Paul. Nous constatons dans ces versets qu'on ne peut pas faire le clivage entre le christianisme authentique et un attachement à l'apôtre Paul. Paul exhorte les Corinthiens à lui faire de la place dans leur cœur, verset 2. Et il se réjouit, verset 7, quand il entend parler de leur zèle pour lui. On ne peut pas être un chrétien authentique si on éprouve du mépris à l'égard de l'apôtre Paul ou de ce qu'il enseigne. Un auteur chrétien raconte avoir entendu quelqu'un prétendre que Paul croyait trop à sa propre importance, que c'était un misogyne autoproclamé, qu'il n'avait aucune autorité et que ses lettres ne nous intéressaient plus, sauf pour montrer comment il avait confisqué unilatéralement le message de Jésus, message d'égalité et d'amour. Une telle attitude est impossible pour un chrétien qui se veut authentique. Un amour pour l'enseignement de l'apôtre Paul va de pair avec la croissance spirituelle. Avons-nous de la place dans nos cœurs pour l'apôtre Paul? Avons-nous besoin de lui faire plus de place? Et est-ce que, comme Paul, nous éprouvons de la joie face au progrès spirituel constaté chez les autres? Paul n'arrivait pas à se concentrer sur autre chose tant qu'il n'avait pas de nouvelles des Corinthiens. Trop souvent, je pense que j'ai d'autres priorités dans la vie. Tant que les autres vont bien, qu'ils sont en bonne santé et qu'ils sont heureux, je ne me fais pas trop de soucis pour eux. Comme Paul est différent, il nous montre qu'il donne la priorité au progrès spirituel. Le christianisme authentique se rattache à l'enseignement de Paul et se réjouit de la croissance spirituelle. Mais voyons maintenant de plus près pourquoi les nouvelles des Corinthiens étaient si encourageantes. Au verset 8 à 13, nous voyons la tristesse selon Dieu qui produit la repentance. La tristesse selon Dieu qui produit la repentance. Dans ces versets, Paul parle de la lettre qu'il avait envoyée aux Corinthiens. Relisons les versets 8 à 9. « Si même je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Même si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a attristé momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. » Paul a appris de Tite que les Corinthiens avaient été attristés par sa lettre. Et Paul a regretté à ce moment-là d'avoir attristé les Corinthiens. Et puis il s'en est remis, il s'est réjoui de ce qui en a résulté. Il dit au verset 9, « Votre tristesse vous a porté à la repentance. » Qu'est-ce que la repentance? C'est le genre de mot qu'on entend souvent dans les églises. Mais peut-être que certains ne sont pas sûrs de ce que ce mot veut dire exactement. Il s'agit d'un changement radical, un changement de direction dans sa vie, un demi-tour que l'on fait. Comme lorsqu'on roule en voiture, on s'aperçoit qu'on roule dans le mauvais sens et il faut sortir pour reprendre l'autoroute dans le sens opposé. C'est ça la repentance, faire demi-tour. Cesser de vivre pour soi-même et le péché et commencer à vivre pour Dieu, avec Jésus comme notre chef. C'est ça la repentance. Ce n'est pas une série de prières à réciter, une série de bonnes œuvres à accomplir. C'est plus radical que cela. C'est le changement d'orientation de toute notre vie. Et vous remarquerez que Paul parle de tristesse ici, car la tristesse en soi n'est pas la repentance. On peut être triste de rouler dans le mauvais sens sur l'autoroute, mais ne rien faire pour changer de direction. On peut même ralentir, on va main vite, mais on continue quand même dans le mauvais sens. Et c'est la même chose dans la vie. On peut faire preuve de tristesse concernant notre péché sans pour autant nous repentir. C'est pour cela que Paul, au verset 10, fait un contraste important entre la tristesse du monde et la tristesse selon Dieu. Lisons le verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Paul dit qu'il est tout à fait possible d'être triste par rapport à sa vie ou par rapport à un péché que vous voyez dans votre vie, sans pour autant s'en détourner. Selon Paul, c'est la tristesse du monde et cela produit la mort. Il y a quelque temps, les anciens de cette église voulaient interpeller un homme qui vivait dans l'adultère pour le confronter à son péché. Cet homme savait pourquoi on voulait le voir, mais il refusait systématiquement de se présenter. Il était triste. Triste que son péché ait été découvert et mis à nu. Mais il ne s'agissait pas de la tristesse selon Dieu qui produit une repentance. Et on n'a plus jamais revu cet homme à l'église. Ça craint pour cette personne. Paul dit qu'une telle tristesse mène à la mort, au jugement de Dieu. Souvent, la personne se dira, mais il n'y a aucun problème entre moi et Dieu. Dieu m'accepte tel que je suis. Je n'ai pas besoin de changer. C'est faire preuve d'un aveuglement spirituel. Il s'agit de la tristesse du monde. Tandis que la tristesse selon Dieu produit la repentance. Nous sommes tristes parce que nous avons offensé Dieu. La tristesse nous pousse à la repentance, à changer d'attitude, à demander pardon à Dieu et à vivre différemment. Je pense à quelqu'un qui vivait dans le concubinage tout en se disant chrétien. Un ami chrétien à lui m'a parlé de la situation. L'homme avait coupé contact avec cet ami et ne répondait plus à ses appels. Son ami ne savait pas comment réagir. Finalement, il a décidé de lui écrire. Suite au conseil qu'un pasteur lui avait donné en disant « S'il est véritablement sauvé, tôt ou tard, il va bien réagir à ta lettre. » Et merci Seigneur, il a enfin rompu avec la fille avec qui il vivait et il s'est repenti. C'est la tristesse selon Dieu qui mène à la repentance. Nous pensons parfois que c'est une mauvaise chose d'attrister quelqu'un. Mais Paul dit que si la tristesse peut mener à la repentance, alors c'est une bonne chose. La tristesse selon Dieu produit un changement radical. Et nous voyons l'effet produit chez les Corinthiens au verset 11. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Bien plus, quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Les Corinthiens ont démontré un empressement à obéir aux directives de Paul. Ils lui ont présenté des excuses en expliquant en quoi ils avaient changé. Ils ont exprimé leur indignation à l'égard de l'homme qui a défié l'autorité et l'enseignement de Paul. Et peut-être aussi à leur propre égard, horrifiés de ce qu'ils ont fait. Ils ont montré de la crainte de Dieu et la crainte des conséquences s'ils continuaient sans se repentir. Et ils ont fait preuve d'un ardent désir de s'aligner du côté de Paul de nouveau. Et ils l'ont fait avec zèle, lié peut-être à la punition qu'ils ont décidée contre celui qui a péché. Paul a fait des reproches à l'Église. L'Église était attristée, mais il s'agissait de la tristesse selon Dieu. La tristesse qui produit la repentance, qui mène au salut et que l'on ne regrette pas. L'Église a agi pour mettre l'homme sous la discipline de l'Église. Vous pouvez lire le chapitre 2 pour en savoir plus. Et Paul conclut à la fin du verset 11. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Ils ont bien agi pour régler la situation. Quel soulagement! Mais Paul dit que la raison pour laquelle il a écrit dépassait le cas précis de péché contre lui dans l'assemblée. Au verset 12, il dit: Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de l'offenseur, ni à cause de l'offensé, c'est-à-dire Paul, mais pour que votre empressement pour nous soit manifesté parmi vous devant Dieu. Il voulait donner aux Corinthiens l'occasion de montrer leur soutien pour lui une fois pour toutes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Verset 13, c'est pourquoi nous avons été consolés. Paul a été consolé par la repentance des Corinthiens. Il les a attristés momentanément, mais leur tristesse, selon Dieu, a mené à la repentance, un changement d'attitude radical. Peut-être que certains d'entre vous qui écoutez ce message découvrez le message de la Bible. Vous ne vous êtes pas encore tourné vers Dieu. En vous détournant d'une vie de rébellion contre lui. Je vous exhorte à le faire, à vous tourner vers Dieu. Ce message de la repentance qui sauve de la mort n'a jamais été aussi pertinent. Nous vivons une crise que nous n'avons jamais connue auparavant dans notre génération. La mort commence à être une réalité, une possibilité imminente pour beaucoup. Et il y a une impression générale, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, que cette crise provoquera une remise en question. On parle d'un avant et d'un après la crise du coronavirus. J'ai lu une citation cette semaine du sociologue Frédéric Lenoir qui disait « Prenons cette crise comme une opportunité d'un retour sur soi et bien sûr aussi d'une plus grande attention à ses proches. Passer plus de temps avec sa famille, jouer et échanger avec ses enfants, parler au téléphone plus longuement avec ses amis sur les choses les plus essentielles de nos vies. » On pourrait se dire que ce sont des bonnes choses. Et peut-être qu'on pourrait même éprouver une certaine tristesse par rapport à notre manière de vivre avant la crise actuelle. Et si cette remise en question pouvait nous faire plutôt retourner à Dieu? Si notre vie pouvait être marquée par l'avant COVID-19, loin de Dieu, et l'après COVID-19 en bonne relation avec Dieu, en reconnaissant que nous avons rejeté jusque-là son autorité dans nos vies. Cette crise constitue un moment en or pour revenir à Dieu. Et Dieu est prêt à nous accueillir dans sa présence. Non pas parce que nous disons que nous allons mieux vivre après la crise, mais parce qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ qui a vécu la vie parfaite. Il n'a jamais eu besoin de se repentir. Et il est mort sur la croix pour prendre sur lui la condamnation que nous méritons de la part de Dieu. Et en retour, il nous offre la vie éternelle. Nous avons vu au chapitre 5 de 2 Corinthiens, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous sur la croix, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, pour avoir la vie éternelle. Vous pouvez être réconciliés avec Dieu avant la fin de ce message même, si vous vous confiez dans la mort de Jésus pour vos péchés, si vous faites demi-tour pour vivre dorénavant avec Jésus comme votre chef, et si vous le faites, vous n'avez rien à craindre face à la mort. La mort devient la porte d'entrée de la vie éternelle en la présence de Dieu. Mais il se peut que nous soyons déjà repentis, que nous sommes déjà croyants en Jésus-Christ. Ne pensons pas que la repentance ne nous concerne plus. Il faut que nous soyons toujours prêts à nous remettre en question. Si nous constatons que nous marchons dans le péché dans un domaine de notre vie, comment réagissons-nous? Nous serons bien tristes peut-être, mais de quelle tristesse s'agit-il? Sommes-nous navrés parce que nous sommes déçus de nous-mêmes? Sommes-nous embêtés seulement parce que les autres ont vu comment nous sommes vraiment, vraiment? Ou bien faisons-nous preuve de la tristesse selon Dieu qui produit la repentance que l'on ne regrette jamais? C'est ce que les Corinthiens ont fait. Et Paul termine ce passage en parlant de la joie de Tite, son collaborateur, face à la réaction des Corinthiens. Au verset 13 à 16, nous voyons que la repentance est la preuve d'une foi authentique. La repentance est la preuve d'une foi authentique. Verset 13, Paul dit, c'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Paul se réjouit, car Tite s'est réjoui. Tite a dû être inquiet. Imaginez-vous que vous êtes chargé de remettre une lettre à une église qui contient de graves reproches. Vous vous demandez avec anxiété, comment cette église va-t-elle réagir? Mais l'église a démontré une réaction tellement mûre et unie face à la lettre de Paul que l'esprit de Tite a été tranquillisé. Et au verset 15, nous voyons que son amour pour les Corinthiens a encore grandi. Sa tendresse pour vous est encore plus grande. Au souvenir de votre obéissance à tous, car vous l'avez reçue avec crainte et tremblement. Cela n'aurait pas pu mieux se passer. Et à notre tour, on pourrait se demander, sommes-nous prêts à accueillir un mot de remise en question de la part d'un frère ou d'une sœur? Ou bien sommes-nous prêts à nous défendre vivement? Mais qui êtes-vous pour me dire une chose pareille? Cela ne vous concerne pas. Ça fait partie de ma vie privée, ça. Bien sûr, il y a toujours une mauvaise manière de reprocher son comportement à quelqu'un. Et il est souvent plus facile si nous avons déjà une bonne relation avec la personne. La remarque risque d'être plus facilement acceptée. La plupart du temps, nous n'attendons pas à des remarques des gens, mais lorsqu'il est question d'un péché grave que nous sommes en train de commettre, nous devons accueillir la remarque constructive de l'autre. Prions que nous puissions réagir aux remarques sur notre péché comme l'ont fait les Corinthiens. Car la façon dont les Corinthiens ont réagi a beaucoup rassuré Paul. La repentance est la preuve d'une foi authentique. Il dit au verset 14, si devant lui, devant Tite, je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'ai pas eu lieu d'en rougir. Mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être aussi la vérité. Paul a parlé à Tite des Corinthiens de manière très positive. Oh, ils vont bien recevoir le reproche, ils vont se repentir. Ce sont des chrétiens authentiques, tu vas voir. Et merci Seigneur, cela s'est avéré dans les faits. Paul est rassuré. Il n'avait pas tort en pensant que ce sont de véritables chrétiens. Ceux qui voient le péché dans leur vie et s'en repentent sont de véritables chrétiens. Ce passage devrait vraiment nous rassurer. Nous ne réagissons pas parfaitement lorsque nous voyons le péché en nous. Peut-être qu'en étant confinés chez nous, nous avons plus facilement remarqué notre irritation contre les autres. Notre manque de patience avec la connexion Internet ou les nouvelles technologies. Notre intolérance à l'égard des autres. Repentons-nous de ces attitudes, de ces comportements. La repentance est la preuve d'une foi authentique. Un membre de ma famille voulait me parler cette semaine, une chrétienne, car elle fait partie des personnes à risque par rapport au COVID-19. Elle avait peur de mourir. Elle n'était pas sûre si sa repentance était authentique. Elle me disait, mais je refais encore le même péché. Je n'arrive pas tout à fait à le vaincre. Mais je lui ai dit que le fait que cela l'attriste et qu'elle déteste le péché et qu'elle veut s'en débarrasser est un signe très rassurant. Même si les progrès dans sa lutte contre le péché sont lents comme pour nous tous, nous pouvons être rassurés si nous réagissons face au péché avec une tristesse qui mène à la repentance. Mais si nous marchons dans le péché sans aucun désir de nous repentir et de changer devant Dieu, soyons avertis. Paul est rassuré par rapport aux Corinthiens. C'est pour cela qu'il termine au verset 16. Je me réjouis d'avoir en toute chose confiance en vous. Il est rassuré qu'ils sont de véritables chrétiens. Cela ne veut pas dire que tout est rose chez eux. Au chapitre 8 et 9, il va aborder le sujet d'une collecte pour les églises à Jérusalem. Et il les encourage à y participer comme il l'avait promis. Et au chapitre 10 à 13, il va s'exprimer dans des termes assez forts pour les exhorter à ne plus tolérer les faux enseignants qui prêchent un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Tout ça est encore à venir pour eux. Mais Paul est rassuré. Grâce à la repentance qu'ils ont manifestée, il sait qu'ils sont authentiquement chrétiens. Il les exhorte à faire encore de la place dans leur cœur, comme il est portant le sien. Il les exhorte à progresser encore dans leur foi et leur repentance dans tous les domaines de la vie. Et nous, à la fin de cette explication de ce qu'est un ministère authentique de l'Évangile, nous voyons que nous aussi, nous devons nous attacher de plus en plus à l'enseignement de l'apôtre Paul. Pas de christianisme authentique sans un attachement profond à l'enseignement de Paul. Et nous devons continuellement nous repentir, car la tristesse selon Dieu produit la repentance qui mène au salut. Et en ce faisant, nous sommes rassurés que nous sommes de véritables chrétiens prêts à affronter les divers défis à venir, en attendant le salut éternel, la vie éternelle au-delà de la mort, gagnée pour nous par Jésus et sa mort sur la croix. Prions ensemble. Notre Père, combien nous te louons pour ton évangile. Merci pour l'apôtre Paul. Et nous te prions que nous puissions lui faire de la place dans nos cœurs. Que nous puissions être d'autant plus attachés à son enseignement. Et nous te prions que nous puissions faire preuve de la tristesse selon toi. La tristesse qui produit la repentance, qui mène au salut. Et que l'on ne regrette pas. Et nous te louons parce que la repentance est la marque d'une foi authentique. Quel soulagement, quelle consolation, nous te louons. Et nous te louons pour cette espérance que nous avons au-delà de la mort, grâce à la mort de Jésus-Christ. Et nous te prions de nous garder proche de toi dans les jours, dans les semaines à venir, en vivant tous les jours, la foi et la repentance. Au nom de Jésus. Amen.
Un grand merci à Robbie. Et donc, nous avons cette exhortation